Les infos avec Maria Melkurdi. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous. Il faut rentrer chez vous maintenant, sous peine d'une amende, si vous êtes dans l'un des 8 nouveaux départements où le couvre-feu est avancé à 18h, notamment en Côte d'Or. Nous y serons dans ce journal. Au sommaire également, l'inquiétude à Marseille, où l'on sait désormais qu'il y a 8 cas positifs aux variants du Covid. Le cri d'alarme du président du conseil départemental du 93, Stéphane Troussel. La place des étudiants, c'est au Resto U, pas au Resto du cœur. Aux États-Unis, Donald Trump, sous le coup d'une procédure de destitution imminente, c'est inédit dans le pays. Enfin, son nom et ses gloires sont associés à l'histoire du rallye Dakar. Hubert Auriol est mort à 68 ans.
France Inter.
Ça commence maintenant pour une partie des Français de l'Est et du centre de la France. Couvre-feu avancé à 18h au lieu de 20h. 8 nouveaux départements concernés. L'Allier, les Alpes de Haute-Provence, les Bouches-du-Rhône, le Cher, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Vaucluse, la Côte d'Or. La Côte d'Or où les habitants et les commerçants d'Is-sur-Tille à côté de Dijon ont du mal à s'y faire. Reportage Nouran Mahmoudi.
Ce qui inquiète principalement Andrea, c'est les courses. Elle habite à Is-sur-Tille, mais travaille à Dijon avec impossibilité de télétravailler.
Ça nous embête parce qu'il y en a qui travaillent en plus. Donc bah, pour les courses, c'est compliqué parce qu'elles finissent à 18h. Les magasins, du coup, ils sont obligés de suivre cette démarche. Donc bah, 17h30, les magasins, il n'y a plus personne. Donc ouais, ça nous embête fortement.
Et effectivement, du côté des commerces, on est résigné. On fermera donc à 18h. C'est le cas de la boulangerie de Coralie, par exemple, qui a pris cette décision bien à contre-cœur.
Pour nous qui finissons à 19h, on va faire comment? On va devoir tout fermer les commerces à 18h. Ça va nous faire perdre du chiffre d'affaires.
Il y a heure de pointe vers quelle heure en général?
Je dirais vers 17h30, 18h justement. Si elle couvre feu à 18h, bah forcément ils vont devoir se speeder de rentrer, ils vont pas passer à la boulangerie.
Chantal, elle, habite et travaille à Is-sur-Tille, elle connaît bien sa ville. Et pour elle surtout, avancer le couvre-feu de 2h ne change pas grand-chose finalement.
Je pense pas qu'il y ait un gros impact sur la propagation du virus. Parce que entre 18 et 19 heures dans les rues d'Is-sur-Tille, c'est quand même pas là qu'il y a le plus de monde.
On se dit donc à quoi bon? Un sentiment largement partagé d'ailleurs dans la commune, entre colère et finalement résignation.
Un reportage de Nouran Mahmoudi de France Bleu Bourgogne pour France Inter. Marseille, entre colère et inquiétude ce soir. Les élus comme les habitants ont fait savoir qu'ils avaient, eux aussi, du mal à digérer l'avancement du couvre-feu. Mais double peine en quelque sorte pour la ville ce soir où plane désormais la menace du variant du Covid. Un variant 50 à 70% plus contagieux. Le maire PS de Marseille, Benoît Payan, a fait un point sur la situation virale dans sa ville avec l'adjointe au maire Michel Rubirola. Situation inquiétante, dit-il, puisqu'on sait ce soir qu'il y a 7 nouveaux cas positifs au variant anglais dans la commune. Pour Benoît Payan, il faut agir au plus vite afin d'éviter la propagation de la variante du virus.
Nous ne souhaitons pas que ce cluster s'étende dans Marseille. Et c'est pour ça que nous avons demandé à l'État tous les moyens nécessaires pour nous donner les adresses, les noms des personnes qui souhaitent se faire tester, pour qu'elles puissent s'isoler, pour qu'elles puissent se faire traiter, pour qu'elles puissent être soignées. C'est extrêmement important pour nous d'avoir pu réagir dans l'heure. Pour l'instant, il y a, on le sait, sur la quarantaine de personnes qui ont été identifiées, 23 personnes qui sont positives. Au moment où je vous parle, nous ne savons pas si c'est le mutant, si c'est le virus mutant dont on est su. Et la première personne dont on sait qu'elle est virus mutant, et ensuite 7 positifs. Il faut donc, vous l'avez compris, les isoler. Mais il faut aller chercher d'autres traces. Il peut y avoir 1, 2, 3, 5, 6 personnes qui ont échappé au contrôle de l'État, qui n'ont peut-être pas pratiqué les gestes barrières et qui sont allées contaminer d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de mettre tous les moyens en commun, tous les moyens nécessaires pour essayer de les identifier.
Et même scénario désormais qui semble se dessiner dans les Hautes-Alpes, un cas du variant britannique détecté. Et comme pour Marseille, la personne fait partie d'une famille qui réside au Royaume-Uni mais qui est venue passer les fêtes de fin d'année en France. Sur le front de la vaccination, les premières doses du vaccin Moderna seront livrées demain. Confirmation ce soir du ministère de la Santé qui précise que d'ici fin juin, ce sont près de 8 millions de doses qui sont attendues pour ce vaccin. Conséquence de la situation sanitaire due au Covid, la jauge imposée dans les lycées sera sûrement prolongée au-delà du 20 janvier, annonce du ministre de l'Éducation. Mais pour l'instant, Jean-Michel Blanquer rejette l'idée d'un report des premières épreuves du bac prévues en mars. Lui dénonce une précarité en forte hausse chez les étudiants à cause de la crise sanitaire. Le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, il décrit une situation dramatique pour de nombreux étudiants qui, en plus de voir leur vie sociale réduite à néant, perdent leur job étudiant et sombrent dans la pauvreté. Ils lancent un cri d'alarme.
La fermeture des universités quasi totale depuis mars dernier, même s'il y a eu des semaines de reprise, bien évidemment, entre mai et septembre, combinée à la disparition des jobs étudiants, de ces petit boulot, eh bien, c'est une précarité croissante chez les étudiants et un mal-être grandissant. Les enseignants disent parfois qu'ils font plus du soutien psychologique que des cours lors de leurs enseignements en ligne. Et donc, effectivement, l'ensemble des initiatives qui ont été portées par des associations d'aide humanitaire, par les universités elles-mêmes, n'ont jamais vu autant d'étudiants dans leurs locaux demander de l'aide, justement. Donc, la place des étudiants, c'est au Resto U, pas au Resto du Cœur.
Stéphane Troussel plaide également pour un RSA, un revenu de solidarité active pour les moins de 25 ans, y compris pour les étudiants. Avis partagé par les responsables d'université du 93. J-10 avant la passation de pouvoir aux États-Unis. Donald Trump plus isolé que jamais, lâché par ses plus fidèles alliés. Le vice-président américain Mike Pence fait savoir qu'il assistera, contrairement à Donald Trump, à la cérémonie d'investiture de Joe Biden le 20 janvier. Donald Trump qui pourrait se retrouver dès demain sous le coup d'une nouvelle procédure de destitution lancée par les démocrates qu'il accuse d'avoir provoqué les violences au Capitole. Une deuxième procédure d'impeachment, c'est inédit aux États-Unis. Le temps imparti est a priori trop limité pour que le président Trump soit destitué avant la fin de son mandat. Mais beaucoup de démocrates tiennent malgré tout à lancer la procédure. Explication avec notre envoyé spécial à Washington, Franck Madvon.
Près de 200 élus démocrates à la Chambre des représentants ont déjà signé la mise en accusation de Donald Trump. Si la Chambre se réunit cette semaine pour lancer la procédure de destitution, elle sera certainement approuvée. Il a été demandé aux démocrates de se tenir prêts. Mais un procès de Donald Trump au Sénat ne pourra sans doute pas se tenir avant l'investiture de Joe Biden. Alors pourquoi engager cette procédure ? D'abord, les démocrates veulent agir. Les violences de mercredi au Capitole ne peuvent pas, à leurs yeux, rester impunies. Une deuxième procédure de destitution serait aussi historique. Donald Trump a déjà été mis en accusation pour avoir fait pression sur l'Ukraine afin de discréditer Joe Biden. Aucun président dans l'histoire des États-Unis n'a eu à affronter deux procès en destitution. Enfin, s'il était condamné, Donald Trump pourrait ne plus jamais être éligible. C'est prévu dans la Constitution. Il faudrait toutefois que plusieurs sénateurs républicains s'associent aux démocrates. Quelques-uns y sont favorables, mais beaucoup veulent simplement tourner la page et ne faire aucun cadeau à l'opposition. Washington, Franck Madvon, France Inter.
Il a marqué l'histoire du rallye Dakar dans les années 80-90. Hubert Auriol est mort, il avait 68 ans. Il a été pilote, mais aussi directeur du rallye Dakar. Il a été également le premier présentateur de l'émission de télé-réalité Koh-Lanta. Mais son nom reste surtout associé à l'histoire du Dakar Léo Rosé.
Hubert Auriol est le premier pilote à remporter le rallye raid en moto et en auto sur deux roues en 1981 et 83, puis quatre roues en 92. Surnommé l'Africain parce qu'il est né en Éthiopie et pour ses succès sur les pistes, il devient le patron du Dakar en 1995. Il le restera pendant 9 ans. Sous sa direction, la course change de formule. Elle s'élance pour la première fois hors de France, d'Espagne d'abord, puis de la capitale du Sénégal notamment. Le grand public le découvre ensuite sous une nouvelle casquette, en présentateur d'une émission de télé-réalité devenue culte, Koh-Lanta, lors de la première saison. L'aventure marque tout son parcours. Hubert Auriol détient un autre record atypique, le plus rapide tour du monde en avion à hélice en un peu plus de 88 heures.
Léo Rosé et le rallye Dakar a lieu en ce moment même en Arabie Saoudite. C'est un Saoudien, Yazid Al-Raji, sur Toyota qui s'est imposé lors de la 7e étape auto. Performance réalisée en 4 heures 21 minutes et 59 secondes. On regarde la météo.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va?
Avec Jean-Michel Golinski.
Excepté les averses sur la Corse accompagnées d'un vent d'est sensible, ce lundi la fameuse dépression Philomena n'aura plus d'impact sur le temps sensible des régions méridionales avec un franc soleil près des Pyrénées et du bassin méditerranéen aux Alpes. On notera un mistral et une tramontane modérée. Plus au nord, les nuages bas et les brouillards, souvent givrants, seront suivis d'éclaircies au sud de la Loire et de la Bourgogne au quart nord-est, mais plus près de la Manche, la grisaille va persister. En fin de nuit, le froid sera vif avec 0 à moins 4 degrés en général, y compris près de la Méditerranée, et même moins 6 sur l'Alsace et au sud de la Garonne. En journée, excepté les 10 à 13 degrés prévus sur le Finistère et de la Côte d'Azur à la Corse, il fera généralement entre 2 et 7 degrés.
Merci Jean-Michel Golinski de Météo France.